Alors ce matin, je voulais vous partager une petite pensée. Ce serait en deux temps. 2 Timothée chapitre 2, verset 1. On s'arrêtera au verset 7. Je lis donc. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Et quand il utilise le terme « enfant », ce n'est pas dans le sens puéril ou népios, mais il utilise ce terme dans un terme affectif. Lisons-le. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Vous savez qu'il y a deux conceptions de grâce. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, la grâce consiste à lui ouvrir les yeux sur son état et de lui faire voir que Dieu lui donne le salut gratuitement. Mais la grâce aussi peut se manifester dans la vie de celui qui a déjà accepté Jésus. Comment cette grâce se manifeste-t-elle? Elle se manifeste par le fait que Dieu ouvre nos yeux et qu'en lui, nous puissions avoir la clarté des ressources que nous pouvons avoir de la part de Dieu pour nous permettre de vivre de manière convenable, selon sa parole ici-bas. Et il s'agit de cette grâce-là dont il est question. Et ce que tu as entendu en moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat du Christ. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur, qui peine, doit être le premier à recueillir le fruit. Voilà ces quelques éléments que l'apôtre des allégories d'une vie chrétienne, mais d'une vie chrétienne mûre, épanouie. Ça, il s'agit d'une vie chrétienne mûre, épanouie, que l'apôtre Paul est en train de rappeler à Timothée. Et la dernière phrase comprend cela, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en tout. Il y a 7 points, mais je ne développerai pas tous les 7, j'en ferai 4, et peut-être les 3 autres tout à l'heure rapidement. Lorsque Dieu a sauvé les enfants d'Israël pour qu'ils puissent entrer dans la terre de la promesse, il fait toujours sortir d'un endroit pour nous faire entrer dans un autre. Il nous sort du lieu de l'esclavage pour nous conduire vers le lieu de la liberté. Il nous sort souvent du lieu de la souffrance pour nous conduire vers la félicité. Et tout le long du parcours, au sujet des enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte pour aller vers de la terre de la promesse, ils auraient pu le faire en une seule semaine. Mais Dieu leur a fait passer 40 ans. Pourquoi? Parce que le souvenir de l'Égypte leur sont tenaces. Dieu est parvenu à les arracher de l'Égypte, mais il n'a pas pu arracher l'Égypte de leur cœur, de beaucoup. Et parfois dans la vie chrétienne, nous pouvons être délivrés par la main du Seigneur, mais parfois dans notre piété, dans notre vie de tous les jours, il y a encore des choses qui sont du monde qui restent accrochées à nous et qui font que parfois notre vision des choses de Dieu sont déformées. Elles nous perturbent, elles nous distraient. Il y a des mélanges de valeurs qui sont dans les bonnes et les mauvaises. Il y a des demi-vérités qui vont se mélanger avec des quarts de vérité et on se retrouve avec un conglomérat d'une conception qui n'est pas typiquement biblique, qui fait que Dieu ne peut pas intervenir parce qu'il ne trouve pas sa parole et qui est à moitié biblique, qui ne nous permet pas de voir le bout du tunnel, on est dans la zone grise. Or, dans la vie spirituelle, la zone grise n'existe pas. Soit on est de l'autre côté ou on est de l'autre côté. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée. Il va prendre des métaphores. Un soldat, un athlète, et un laboureur. Prenons le cas du soldat. Il n'y a pas de soldat, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, de s'embarrasser des affaires de la vie. Et le mot « s'embarrasser », ça vient d'un terme de couture, c'est-à-dire tisser. Faire une sorte de... un environnement. Être entrelacé. Celui qui veut plaire à Dieu doit être détaché du milieu dans lequel il est. Moi, j'aurais pu être général d'armée. Je l'avais raté de justesse parce que j'avais manqué l'occasion d'aller à l'école de guerre. Mais c'était pour mon bien parce que tous les amis qui étaient à l'école de guerre à l'époque, ils avaient été impliqués dans un coup d'État en Centrafrique, ils avaient tous été tués. Et mon père me disait, mais voilà, te connaissant, si tu avais réussi à aller à l'école de guerre, je crois qu'on t'aurait déjà perdu. Mais lorsqu'on vous appelle, on vous coupe les cheveux, parfois il y en a d'autres qui changent de nom. Ils vous demandent maintenant un régime alimentaire différent. Les amis que vous avez avant, vous ne pouvez pas être avec eux parce qu'ils ont une valeur qui serait contraire à la valeur militaire qu'on va nous enseigner. Et dans la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. Notre manière de voir les choses ne doit pas être identique. Un soldat, c'est un soldat. Et l'apôtre Paul ne se contente pas de dire que nous devons vivre comme des soldats. Il va utiliser un autre mot. Servir comme un bon soldat. Qu'est-ce qu'un bon soldat d'un soldat? Un bon soldat, c'est celui qui est obéissant, dans un premier temps. Celui qui n'est pas obéissant, il ne peut pas diriger. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas appris à obéir, le plus souvent, c'est les dictateurs. L'autorité dans la parole de Dieu n'est pas une autorité dominante qui a servi. Jésus a dit que vous avez les autorités dans ce monde qui dominent sur vous. Mais que du milieu de vous, que je ne constate pas cela. Que celui qui veut être le plus grand soit celui qui sert. Et l'autorité du Seigneur, c'est une autorité qui est appelée à servir. Et le service, c'est une expression de l'amour de la part de Dieu. Et c'est ça, les dispositions d'un bon soldat. Parfois, quand il écoute de la part de son supérieur une instruction, il obéit aussitôt. Et dans les principes spirituels, la notion de l'autorité est très importante. Souvent, l'Église est dévissée parce que la notion de l'autorité n'est pas bien perçue. Chez nous, dans la monarchie, quand on parle de l'autorité, on pense à l'asservissement. Et du coup, ça crée à nous un réflexe de reflux. On ne veut pas y obéir. Mais l'obéissance, elle est divine, mes bien-aimés. Elle n'est pas humaine, l'obéissance. Elle est divine. C'est la marque de Dieu. C'est dans cette structure-là que tout s'organise. Tout ce qui est né du péché, c'est du désordre, c'est du chaos. Et tant que Dieu n'a pas mis un terme au chaos, il ne peut pas commencer à construire. Et ça, c'est dans la vie de chacun d'entre nous. Si quelque chose n'est pas discipliné, n'est pas en ordre, Dieu ne s'en sert pas. Il attend jusqu'à ce que tout soit mis en ordre pour qu'il commence à travailler. Et parfois, des vies spirituelles font du yo-yo. On avance d'un pas, on recule de quatre, on avance de deux, on recule de cinq. C'est parce que cette stabilité, cette vision n'a pas été perçue. Soldat. Un bon soldat. Du Christ, pas de Jésus, du Christ. Et le mot Christ, c'est le titre que Dieu a donné à Jésus lorsque Jésus est ressuscité. Souvent, nous prêchons Jésus avant la croix, mais on le prêche peu après la croix. Jésus avant la croix, il guérit. Il est à un seul endroit à la fois. Il y est celui qui nous donne à manger du pain. Mais Jésus après la croix, après la résurrection, la présence de Christ a été multipliée. Et c'est ce Jésus d'après la croix qu'il faut prêcher. C'est lui à qui appartient tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et c'est ce soldat de Christ que nous devons être. Voilà le champ dans lequel Dieu nous mène. Bon soldat du Christ. Ainsi, l'apôtre Paul exhorte Timothée à servir comme un bon soldat. C'est-à-dire que le chrétien spirituel n'obéit pas à la loi du monde réfort. Ah, notre monde est habitué à la facilité. Nos enfants manquent de mûrir parce qu'ils sont tellement habitués à la facilité qu'ils n'apprécient pas le sens de l'effort. Et vous savez, ce que l'on acquiert sans effort, on le perd aussi facilement. Le sens de l'effort fait partie de l'éducation. Apprenez la frustration aux enfants. Apprenez l'échec aux enfants. Ne leur donnez pas systématiquement tout ce qu'ils demandent. Faites-leur faire l'expérience de frustration. Ça grandit, ça fait mûrir. Et le sens de l'effort fait partie de la vie chrétienne. Les difficultés que nous avons au niveau de Bangui, parce que les gens pensent que Dieu, il est celui qui, à qui, quand tu cries, il t'envoie le buffle qui tombe du ciel et le sac du riz qui tombe du ciel. Et on n'a pas besoin de faire des efforts. Là, nous nous retrouvons encore avec un autre concept qui est celui de la foi chrétienne et du développement. Parce que les Africains pensent que Dieu, il est celui qui répond à tous leurs besoins. Parce qu'ils sont de la pauvreté, ils estiment que Dieu, quand Dieu viendra, ça y est, leur pauvreté sera balayée en un tour de main. Faux! Faux! La vie chrétienne ne se résume pas au boire et au manger. Elle ne se résume pas dans une abondance matérielle. La vie chrétienne se résume avec la présence de Dieu, la présence de Christ, la force de la vérité, la lumière de la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu qui doit caractériser la vie de chaque chrétien. Un amour sacrificiel, pas un amour qui attend quelque chose au passage. C'est ça la marque de la vie chrétienne. Un amour qui est au-delà du standard habituel. Un amour qui prend sa source dans la présence de Dieu. L'amour qui est Dieu. Être un bon soldat du Christ. Un soldat, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie, mais il doit servir son Seigneur avec le tout qu'il a et avec le tout qu'il est. Parce que Dieu nous a tout donné. Deuxième élément, en effet, c'est le désir de plaire à celui qui l'a enrôlé. Ça, c'est vrai. Il est séparé de son milieu habituel pour développer d'autres valeurs qui est autre du milieu dans lequel il est issu. Parce qu'il ne dépend pas de la terre, il dépend du ciel avec ses principes. L'autre élément, c'est un chrétien doit être comme un athlète. Et quand on parle de l'athlétisme, on fait allusion à la concurrence, les Jeux Olympiques. On a en face de soi des concurrents qu'il faut chercher à dépasser, pour celui qui fait la course. Ou celui qui fait des sauts en hauteur, il va sauter beaucoup plus haut. Mais ce n'est pas de ça dont l'apôtre Paul veut parler. La concurrence n'est pas entre les chrétiens, bien au contraire. Nous, en tant que chrétiens, on est dans la complémentarité. On n'est pas dans la concurrence. Si vous évoluez sur le terrain de la concurrence, c'est que vous avez faussé votre motivation. On est dans la complémentarité. Ici, l'athlète, l'accent n'est pas mis sur la performance ici. L'accent n'est pas mis sur la réussite ici. L'accent est mis sur les règles. Alors, pas plus tard que la semaine dernière, il y a la Coupe des Nations qui avait eu lieu en Afrique et je crois que c'était officiellement le Sénégal qui a gagné. Et il se trouve que le Sénégal a perdu et que c'est le Maroc qui a gagné parce que, d'après eux, les règles n'avaient pas été respectées. Ah oui. Il ne suffit pas d'être performant. Quand on voit le match, on s'est rendu compte que les Lions de la Teranga, qui sont les joueurs du Sénégal, étaient beaucoup plus performants que nos amis les Marocains. Tout le monde a vu et tout le monde a apprécié. Mais d'appeler règlement de la CAF ou de la CAN, Quand les joueurs quittent le terrain, ils ont perdu 3-0. Que tu es performant ou pas performant, pour n'avoir pas respecté les règles, tu as perdu. Et ici, l'accent est mis sur les règles. Mais c'est quelles règles dont Jésus parle? Il s'agit des principes spirituels qui se résument par la loi d'or que nous connaissons tous. Dans sa forme négative, il dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. » Dans sa formulation positive, « Fais à autrui ce que tu veux qu'on te fasse. » Et encore, il faut savoir ce que l'on veut. À mon expérience, je me suis aperçu que les chrétiens ne savent pas ce qu'ils veulent, certains. Ah oui. Il y a certains chrétiens qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. D'où nécessité pour nous, les serviteurs de Dieu, d'être là comme un bon berger pour vous orienter dans la bonne direction. Y compris les coups de reproche, parce que ça fait partie de la discipline. Tellement que nous sommes habitués. Quel est le terme que je vais employer pour ne choquer personne? Nous ne voulons pas de reproches. Nous ne voulons pas de remarques. Mais le monde a été tordu depuis le commencement. Et on n'a jamais vu une règle prendre les formes des courbes. Si les règles prennent les formes des courbes, ce n'est plus une règle. Je crois que quand on fait la géographie, on te demande, tu prends ton équerre et tu prends ton compas ou tu prends ta règle et tu fais une ligne droite. N'est-ce pas? Eh oui. Mais beaucoup de chrétiens, ils ont des lignes courbées comme ça là. Pourquoi? Parce qu'on est influencé par le monde. On est tellement exposé au monde, moué à la parole de Dieu, que nos réflexes inconscients renvoie ce que nous recevons de la part du monde sans le savoir. C'est pourquoi la Bible nous demande de nous laisser être imprégnés de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de vous, au point que lorsque vous respirez la parole. Est-ce que quand vous respirez, vous réfléchissez? Dites-moi. Qui réfléchit quand il respire? C'est naturel. Et par rapport à la parole de Dieu, nous devons en arriver à ce point où tout ce qui est en nous doit être imprégné par la parole de Dieu, y compris même les paroles de nos bouches. Voilà pourquoi Timothée dit aux enfants, dans 1 Timothée chapitre 2, 14, que tu sois un modèle. En quoi? En parole. En foi. En amour. En comportement. En pureté. S'il est question que vous réfléchissez dans chaque domaine que je viens de le dire, vous êtes perdu. Par contre, si votre nature a déjà été changée, ben vous pouvez investir les 5 domaines que j'ai dites, parce que c'est naturel. Et c'est cette vie naturelle que nous devons exprimer. La vie chrétienne ne doit devenir plus un effort. Quelque chose de laborieux, non, ça doit être naturel. On doit transpirer la joie, transpirer l'amour. On doit transpirer la reconnaissance en tout. Voir la gloire de celui à qui nous appartenons, dans ton frère, dans ta sœur. Voir les bons dépôts que Dieu a placés en lui ou en elle. Et notre regard sera porté pour regarder les verres demi-pleins, au lieu de regarder les verres. Les concurrents contre lesquels nous nous battons, c'est notre ancienne nature. S'il y a un ennemi contre lequel nous devons nous bagarrer, c'est nous-mêmes. Ah oui. Deuxièmement, le monde qui influence notre nature. Et derrière le monde, le prince du monde, que vous connaissez bien, pour lequel il y a certaines situations dont il n'est plus responsable. C'est vrai, il est responsable de beaucoup de choses ignobles. Mais il y a des moments où on sera devant le tribunal de Dieu. Satan va intervenir et dire que ça, ce n'est pas moi. Voilà. La présence de Satan ne déchoit pas l'homme de sa responsabilité. Le premier des péchés que l'être humain a commis dans le jardin, c'est d'avoir méprisé la volonté. Il a laissé sa volonté être inclinée vers le mal. C'est pourquoi la vie chrétienne, pour la vivre comme il faut que notre volonté soit éduquée. Et la volonté ne s'éduque pas une seule fois. C'est par le fait que nous repétions de la parole. Nous mangeons la parole, comme dit Jérémie. J'ai recueilli ta parole et je l'ai dévorée. Ah, pour dévorer la parole, il faut en avoir faim. Peut-on dire des chrétiens à l'heure actuelle qui vont recueillir la parole de Dieu et le dévorer? On mange toujours la parole de Dieu. On appelle ça là, on fait la fine bouche, c'est ça? Voilà, l'expression. Non. Il faut nous remplir de la parole par les temps qui courent là. Nous arrivons au crépuscule du temps. Ah oui, c'est fini ça. Là, on est dans la phase où on ne peut plus retourner en arrière. Le temps de la grâce est en train de s'acheminer vers sa fin. Et les événements que nous voyons dans le monde, ce n'est pas rien, c'est un avertissement. Dieu ne viendra jamais utiliser le langage chinois pour nous parler. Dieu utilise les circonstances qui sont un langage universel, que tout le monde comprend. Et les événements auxquels nous assistons aujourd'hui, ce n'est pas rien. Hier, Israël n'a pas su se protéger. Deux de ces régions ont été brancardées avec des blessés un peu partout. Et pourtant, ils ont 5 ou 6 niveaux de dôme de fer. J'ai en train de leur apprendre que leur dôme de fer ne sert à rien. Tant que Dieu n'est pas le protecteur, ce n'est pas l'ingénierie humaine qui les protégerait. C'est le langage divin. Alors, je termine avec le laboureur ou le cultivateur. Ici, il y a l'idée de semer avant de recueillir. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec les cris de joie. Mais ici, c'est une loi universelle. Semer et recevoir, c'est une loi universelle. Je n'ai jamais vu un agriculteur qui se tient devant sa plantation pour dire que voilà, maintenant, venez, vous les blés, venez maintenant les tomates, venez les arachides avant d'avoir semé. C'est pas possible. Si vous le voyez faire ça, vous dites que ça ne vaut pas la peine. Vous le prenez, vous l'amenez à l'hôpital. Parce que quelqu'un d'équilibré ne peut pas raisonner de cette manière-là. Il faut avoir semé. Et comment on sème dans la vie chrétienne? Semer signifie me donner à terre, mourir. Je suis comme une graine que Dieu met à terre. Parce que si un grain de blé ne tombe à terre, ne meurt, il ne porte pas de fruits. Et s'il est mis en terre, il porte davantage de fruits, déjà dans un premier temps. Et beaucoup de vies chrétiennes ne sont pas très fructueuses parce que nous ne sommes pas suffisamment morts. Ou on n'est pas morts. On nous a mis à terre, mais nous nous agitons encore. La vieille nature n'est pas totalement morte. Et quand la vieille nature n'est pas morte, la vie nouvelle ne germe pas. Ah oui? Il faut que la vieille nature soit morte pour que la vie nouvelle germe. Et quand elle germe avec abondance. Minimum 30, minimum 60, ou alors au plus 100. On vit une vie fructueuse, pour peu d'efforts, avec beaucoup de résultats. Or là, on s'aperçoit qu'on investit beaucoup d'efforts pour peu de résultats. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça, je vous le dis. Quand on fait beaucoup d'efforts pour Dieu, pour peu de résultats, il faut s'arrêter. Seigneur, où se trouve le bagage supplémentaire que tu ne m'as pas demandé de porter, que je suis en train de porter? Ah oui, quand ça ne marche pas, c'est qu'il y a des bagages supplémentaires, charnels, qui se sont venus agréger. Débarrassons-nous et laissez la vie spirituelle, celle de Christ, nous porter. Voilà ce que Dieu nous appelle. Être un bon soldat du Christ. Être un athlète qui combatte selon les règles. Qui ne met pas l'accent sur la performance, mais qui met l'accent sur les règles, qui sont les principes du royaume. Et ensuite, un agriculteur qui sème avant de recevoir. Et dans l'idée de semer avant de recevoir, il y a une idée de privation. Je ne jouis pas maintenant de ce dont je me prive. Parce que si vous voulez mettre de l'argent pour que cela génère des intérêts, il faut que vous ne l'utilisez pas pour le moment, que vous le mettez de côté. Donc il y a une idée d'épargner, il y a une idée de semer, il y a une idée de s'en débarrasser d'une situation dont je n'ai plus le contrôle, mais c'est le Seigneur qui a le contrôle par la suite. Parce que l'agriculteur, il n'a plus le contrôle sur la météo. Quand il a mis sa semence à terre, il n'a plus le contrôle sur les événements. C'est la nature qui prend la relève. Mais nous, nous savons à qui nous avons cru. Qui est le maître des événements dans le monde à l'heure actuelle? C'est notre Dieu. Voyez-vous, c'est le moment de se redresser. Nous, enfants de Dieu, c'est le moment. Quand les arbres, les gens le savent, là où sont donnés la tête, c'est là où nous devons nous relever. Nous savons à qui nous avons cru. Nous connaissons l'issue de la bataille, ce qui se passe à l'heure actuelle. Et nous nous préparons en conséquence. Alors, soldats, athlètes, laboureurs, ça s'applique à chacun de nous. Mais chacun en son temps. Il se pourrait que moi j'ai besoin d'être laboureur, mais toi tu as besoin d'être athlète. Pendant que toi tu es athlète, la situation de ta vie nécessite que tu puisses développer le caractère d'un bon soldat. Mais cependant, ça nous concerne tous, en temps et en heure. Parce que Dieu nous donne sa parole pour nous prévenir des choses qui vont arriver. De manière à ce que lorsque ça arrive, nous nous souviendrons que Dieu nous a déjà prévenus. Et c'est le but de la parole de Dieu. Pas pour répondre simplement aux besoins d'aujourd'hui, mais pour nous préparer aux événements qui viennent les jours suivants. Que le Seigneur vous donne de recevoir cette parole que je n'ai pas préparée. Ça m'est venu ici, que ce matin. Que Dieu nous aide d'avancer ensemble. Notre sort est lié les uns aux autres. C'est votre qualité de la vie spirituelle qui fera que je grandirai. C'est ma qualité de vie spirituelle qui fera que vous grandirez vous aussi. Et donc on a intérêt à nous soutenir mutuellement pour nous tirer vers le haut, pour la gloire de notre Seigneur. Je vous invite à la prière. Après, nous allons chanter à celui qui nous aime. Seigneur, que cette parole que tu nous as donnée ne tombe pas sur un sol pierreux, ni dans un endroit épineux, encore moins le long du chemin que les oiseaux ne puissent pas l'enlever. Souvent, notre combat, c'est l'esprit de l'oubli. Nous oublions très vite ce que nous entendons de ta part et ne prend pas racine en nous, ce qui fait que ça fait de nous des êtres flottants. Nous avons besoin de prendre racine. Nous avons besoin, l'Éternel Père, d'avoir de la profondeur afin que nous portions des fruits qui sont dignes. Et que cette parole, Seigneur Dieu, qui soit donnée à ton peuple, les fortifie, encourage chacun. Là, tu ne juges pas, tu nous encourages encore à aller beaucoup plus loin avec toi. Parce qu'il y a des choses que tu es en train de vouloir nous montrer. Mais tant qu'on n'aurait pas fait le premier pas, il est difficile de pouvoir accéder au second. Alors Seigneur, ce matin, bénis chacun d'entre nous. Merci pour la paix et la joie que tu mets dans notre cœur et le désir de t'aimer qui ne cesse de grandir en nous parce que nous voulons encore t'aimer davantage aujourd'hui qu'hier. Nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen.